Alors déjà, moi, je ne crois pas au pur vocal. Pour moi, le futur, il est multimodal. C'est-à-dire qu'on va passer d'une modalité à un autre, à une autre, d'une interface à une autre.
Le métier du designer se transforme continuellement. Il est dépendant de son époque, étroitement lié aux évolutions technologiques. Avec Future UX, nous tentons de comprendre comment la pratique du design, et plus globalement notre métier, change et suit ses évolutions. Dans cet épisode, nous nous pencherons sur les interfaces conversationnelles. En 2014, on prédisait que 50% des recherches sur le web se feraient par la voix d'ici 2020. À la suite de cette prédiction, nous sommes allés à la rencontre de Zoé, Ulysse, Chloé et Maïke pour écouter leur avis sur la question. Ce sujet est découpé en deux parties. Au sommaire de cette première partie, vous retrouverez les chapitres 1 et 2. Chapitre 1, nous essayerons de comprendre ce qu'est une interface conversationnelle et plus largement un système de dialogue humain-machine. Chapitre 2, nos intervenants présenteront des projets sur lesquels ils ont travaillé. Dans la seconde partie, nous découvrirons d'abord le Voice Design Sprint, puis nous interrogerons nos intervenants sur les enjeux et les impacts de cette technologie sur le quotidien des utilisateurs. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur designmasterclass.fr et les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify et Google. Chapitre 1. Découvrir le design conversationnel.
Je m'appelle Zoé Gerter, je suis designer diplômé de l'ENSCI, l'ENSCI des ateliers. Ce qu'il y a de particulier dans mon parcours, c'est que je me suis intéressée à la radio au cours de mes études. Et la radio, ça m'a amenée à m'intéresser à la parole en général. Je me suis rendu compte de quelque chose qui va ensuite me guider, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est toujours de près ou de loin un designer de la parole. C'est-à-dire quand on dessine un espace, du mobilier, on va créer les conditions pour que la parole entre les gens qui vont partager tel lieu, tel environnement puisse s'exprimer ou pas. Et cette réflexion, elle m'a amenée aussi bien à travailler sur des dispositifs d'invitation à la prise de parole, donc plutôt dans des contextes où il y a des enjeux à libérer cette parole, des contextes hiérarchiques, des contextes médiatiques, etc. Et ça m'a aussi amenée à m'intéresser à un phénomène technologique en pleine émergence qui est autour du dialogue humain-machine. Et donc aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à cette question du dialogue humain-machine. Et ça m'amène à concevoir des interfaces vocales en particulier, mais aussi à aborder le sujet de façon plus prospective, en fait. En se posant la question de qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on n'a plus, nous, humains, le monopole de la parole. Est-ce que ça change quelque chose dans notre rapport aux uns aux autres, dans la façon de faire société est-ce que ça reconfigure notre rapport à la connaissance, etc. Alors, moi, j'ai tendance à plutôt m'intéresser aux interfaces vocales où effectivement on va avoir un échange en langage naturel à l'oral et une réponse en langage naturel par une voix de synthèse. C'est parce qu'aussi c'est le type d'expérience conversationnelle qui est la plus radicale aujourd'hui. Après, les chatbots sont intéressants aussi, mais c'est vrai qu'on a tout de suite l'interface graphique qui permet de pousser aussi à ce plein de moments en fait des boutons, hein, des suggestions, de se rattacher à des univers d'interface graphique qu'on connaît déjà. Mon espace de conception, il est lié à l'espace de conception que laisse Google avec Google Assistant et Amazon avec Alexa à des contributions extérieures. Je m'explique. Que ce soit Google Assistant ou Alexa, ce sont des plateformes de services, au même titre que je peux rajouter une application à mon smartphone, je peux rajouter une application à Alexa, une skill. Aujourd'hui, quand on fait une interface vocale, donc quand on conçoit une skill pour Alexa, on a un espace de conception qui est limité. En fait, on ne va pas concevoir tout l'assistant vocal, on va rajouter une fonctionnalité à l'assistant vocal. Pour synthétiser de façon un petit peu globale, un peu générale, un système de dialogue humain-machine, il y a trois briques technologiques, trois briques fonctionnelles. Il y a la première qui est du côté de comprendre ce que dit l'usager, l'humain. Et donc là-dedans, on va avoir vraiment de l'IA, c'est-à-dire que on va devoir, à partir du signal sonore, identifier les stigmates de mots, de phrases, et se dire « Ah, il y a le maximum de chances que ce soit cette phrase. » Donc du coup, tac, je transcris cette phrase. Donc ça, c'est l'Automatic Speech Recognition, ASR. Donc là, on a du texte. On passe du speech to texte. Après, ce texte, on sait pas ce qu'il veut dire. En fait, on a réussi à en générer une phrase, mais en fait, le programme, pour lui, c'est la même chose que s'il avait deviné un chien ou une banane dans une image. Enfin, ça ne signifie rien, en fait. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre quelle est l'intention derrière l'énoncé de l'utilisateur. Ça, c'est très intéressant. Au fait, aujourd'hui, quand on fait une application vocale, il n'y a pas de théorie de l'esprit qui est intégrée dans cette application vocale. Ça veut dire que le programme n'est pas capable de supputer, de projeter que telle phrase veut dire tel besoin ou telle action. Donc, ce qu'on est obligé de faire, en fait, quand on est concepteur, c'est qu'on est obligé d'anticiper toutes les façons dont un utilisateur est susceptible de demander quelque chose pour y faire à l'avance des catégories d'intention. Genre, intention basique, hein, demander la météo. Je vais à l'avance écrire toutes les phrases que je serais susceptible de dire pour exprimer mon intention de connaître la météo. Donc, c'est quoi la météo? Dis-moi quel temps il va faire demain. Est-ce qu'il va faire beau demain? Est-ce que je prends mon parapluie? Etc. Et donc, en fait, on fait le chemin à l'avance pour relier une expression, une forme du langage à du sens. Une fois qu'on a capté le sens, donc on a matché, hein, c'est du matching, on va dire, une fois qu'on a matché le sens, il faut ensuite savoir ce qu'on lui répond. Donc là, il y a une question de choix, en fait. On appelle ça le dialogue management. Le dialogue management, c'est vraiment la partie qu'on appelle arbre conversationnel. Donc c'est vraiment en fonction de tel endroit dans l'expérience, je vais répondre tel énoncé ou déclencher telle action, genre allumer la lumière, etc. Et puis ensuite, il y a le contenu de la réponse. Et donc là, il y a l'énoncé. Donc faut bien écrire à un moment donné ce que le programme va dire. Et donc cette partie-là aujourd'hui, elle n'est pas auto-générative. Donc il y a des gens qui sont soit des designers conversationnels, soit des UX writers. Voilà, ça dépend un petit peu du découpage du travail, qui vont écrire tous ces énoncés. Et puis à la fin, il y a la voix de synthèse qui va vocaliser ce qui aura été décidé de dire. Donc c'est un long processus instantané, mais où il y a une partie qui va se passer dans le cloud et une partie où il y a une partie qui va se passer par exemple chez Alexa, enfin chez Amazon, et une partie qui va se passer chez l'entreprise qui développe l'application.
Je m'appelle Ulysse Botello, je suis Head of Design pour The Chat Factory. C'est une startup qui vise à automatiser la relation client via le médium conversationnel de clients, souvent des grands comptes, et surtout sur des verticales plutôt service client, mais aussi c'est aussi varié que la génération de lead et de qualification, par exemple. Alors déjà, pour le contexte, j'ai commencé ce métier en designant des interfaces graphiques, et c'était vraiment le médium qui était préféré parce qu'on savait pas faire mieux, en fait. Aujourd'hui, on a on a vraiment avancé au niveau de la technologie. On peut aller un peu plus loin dans le côté intuitif, et on peut surtout créer des interfaces qui ne demandent pas d'effort côté utilisateur, parce qu'on s'appuie sur quelque chose que l'utilisateur connaît bien, c'est le langage, et c'est là où on a réussi à créer au final des interfaces conversationnelles. Un chatbot, une interface conversationnelle, c'est un système automatisé qui en amont est pensé pour détecter, comprendre les mots, les intentions, les questions d'un utilisateur, et y répondre via des arbres conventionnels, via de la donnée qu'on lui aura donnée en amont. Donc il n'y a rien de magique. Il y a un aspect apprentissage, parce qu'il va prendre en compte les messages qu'il reçoit pour mieux comprendre les intentions de l'utilisateur, mais il ne pourra répondre que ce qu'on lui aura appris en amont. Donc ça peut être fait via le texte, et là on va utiliser un médium, ça peut être un web chat, donc une fenêtre sur Internet qui fera juste la retranscription des messages de l'utilisateur et qui, du coup, passera les messages du chatbot. Ou on peut utiliser des applications comme WhatsApp, Facebook Messenger, ce genre de choses. Et au final, on a aussi des applications vocales. C'est dans l'idée plus ou moins la même chose, dans le sens où on va être dans les mêmes échanges, sauf qu'on va utiliser un médium différent, qui est la voix. Donc on va être obligé de transcrire la voix de l'utilisateur en texte pour pouvoir traiter la question et pouvoir répondre avec une voix de synthèse, donc faire le chemin inverse, prendre le texte du bot et le passer en son pour pouvoir répondre à l'utilisateur. On parle de chatbot en tant que tel, le petit robot avec qui on converse, mais il y a aussi un vrai sujet autour de l'UX conversationnel au sens large. Et on voit que des marques, de plus en plus, abordent le conversationnel sans pour autant automatiser les échanges, vont même dans le copywriting être beaucoup plus conversationnel. Des applications qui hier étaient faites via des interfaces graphiques normales sont maintenant un peu plus conversationnelles, donc il y a vraiment ce truc que, sans même rentrer dans les parcours assez lourds et l'infrastructure qui peut être assez complexe avec de l'IA pour comprendre les intentions de l'utilisateur, les entreprises aujourd'hui et les applications n'hésitent pas à mettre du conversationnel même sans cette surcouche technique et technologique.
Bonjour. Moi, c'est Maïke Coppens. Je suis experte en UX design vocal et en stratégie vocale. Depuis maintenant quelques années déjà, j'ai d'abord travaillé avec des entreprises aux États-Unis et de l'autre côté de la mer, on va dire, tant que le vocal n'avait pas encore pris racine en France. Et puis maintenant, je travaille aussi beaucoup avec les entreprises françaises et sur des projets vocaux à chaque fois parce que c'est réellement ma passion. J'ai un parcours académique en linguistique et ensuite en formation UX. Et forcément, quand le conversationnel, d'abord textuel, puis vocal, a vu le jour, ben, c'était pour moi juste le mix parfait entre mes deux passions. Donc, je dis toujours, c'était comme si c'était fait pour moi. Le vocal, il faut le voir au sens large, dans le sens où très très vite, en fait, on a tendance de se dire, ben, le vocal, c'est que les assistants vocaux, et puis on s'imagine ces enceintes connectées avec ou sans écran. Mais il y a plein d'autres facettes. Il y a la recherche vocale déjà qui demande une adaptation du contenu de nos contenus traditionnels sur les sites web, etc., de façon à ce qu'ils soient adaptés pour cette recherche vocale. Il y a le vocal, comme on l'entend, les assistants vocaux sur enceinte connectée, mais il y a aussi le vocal dans les applications mobiles qu'on connaît en support d'accessibilité. Il y a aussi le vocal vers les applications, donc c'est-à-dire que sur smartphone, on peut penser au Siri Shortcut et là Google aussi, ils ont annoncé les Voice App Actions. Donc en fait, on va pouvoir demander à son assistant vocal de déclencher une fonctionnalité spécifique à l'intérieur d'une app mobile. Donc en fait, c'est très très large et quelque part, je dirais que le vocal, c'est un peu le fil rouge pour moi qui permettra de lier les interfaces de façon à ce qu'ils soient accessibles et inclusifs pour le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que sur le vocal, on a quelques défis encore et heureusement parce que sinon, si c'était tout cuit, ce serait comme si on avait sauté quelques étapes. Donc en fait, un grand défi, c'est la découvrabilité. Donc, la découvrabilité qui est aussi liée au deuxième défi qui est l'adoption. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi tout le côté confiance et confiance dans l'interface. Alors, pour moi, la découvrabilité, c'est de mettre le vocal sur le parcours de l'utilisateur de façon à ce qu'il y soit confronté à un moment qui soit utile pour lui. Et de cette façon, la découvrabilité se fera tout seul. Et en ce qui concerne l'adoption, passe par le fait de créer de la confiance auprès de l'utilisateur, d'abord sur des fonctionnalités basiques, comme c'est aujourd'hui le cas, et puis petit à petit, en améliorant l'expérience et en lui prouvant que en utilisant le vocal, il arrive à faire les choses plus rapidement, de façon plus naturelle et surtout que pour lui, c'est utile et que ça fait du sens. Alors, pour moi, le bon troisième enjeu est effectivement l'usabilité. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Très souvent, on se dit, on a l'impression qu'il faille qu'on réinvente la roue quelque part. Mais il y a énormément d'ouvrages et énormément de principes qui aujourd'hui existent déjà. Et je pense que un mot-clé à retenir, c'est la conversation. Et avec, on a tous eu des conversations ennuyeuses, superbes, géniales. Des principes de conversation, ça existe depuis des millénaires, comme les maximes de Grice. Donc, je pense que en ce qui concerne l'usabilité, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on adapte les heuristiques d'usabilité qui existent aujourd'hui, qu'on en rajoute qui sont spécifiquement vraies pour le vocal, comme la qualité, la quantité, la pertinence, etc. Et que de fait, ben, on doit procéder comme on a toujours fait, c'est d'assurer que le parcours utilisateur soit fluide et qu'à aucun moment, il rencontre de la friction pour effectuer la tâche qu'il souhaite effectuer. C'est ce qui est beau dans une nouvelle interface, c'est que justement, on a l'opportunité de relever ces défis et de peut-être le faire autrement qu'avec les interfaces précédentes.
Est-ce que d'après toi, les Français, les utilisateurs en général, sont prêts à passer à du pur vocal?
Alors déjà, moi, je ne crois pas au pur vocal. Vraiment pas. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne devrais même pas parler de croyance, mais pour moi, le futur, il est multimodal. C'est-à-dire qu'on va passer d'une modalité à une autre, d'une interface à une autre, mais on va aussi passer d'un mode cognitif à un autre. C'est-à-dire que je pense qu'on va lire et puis entendre ce qu'on lisait et puis se remettre à lire ce qu'on entendait et puis peut-être voir les couleurs des chansons. Et puis voilà, à mon avis, on va plutôt vers quelque chose qui est dans une multisensorielle et multimodale. Et le vocal, c'est un canal de plus qui va se mélanger aux autres. Par rapport à la maturité de la technologie, comme je l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, le designer, il se trouve, je vais l'appeler le designer, on se trouve un peu vraiment à l'intermédiaire entre l'IA et l'usager. Et je nous vois un petit peu comme des béquilles qui venons compléter ce que la technologie ne sait pas faire encore aujourd'hui en termes d'automatisation. Et c'est peut-être tant mieux. Et moi, je réfléchis beaucoup à, dans un futur pas si lointain, si on n'est plus cette béquille technologique, quel sera notre rôle, hein ? Et on est une béquille, entre autres, parce qu'en fait, je vous l'expliquais tout à l'heure, les assistants vocaux en fait ne sont pas en capacité de comprendre les intentions de leurs interlocuteurs ou interlocutrices et aussi sauf dans des contextes très définis, très systématiques, ils sont pas capables de générer automatiquement les réponses en fonction du bon avec les bons contextes, etc. Ça, l'écriture générative, on commence à avoir des use cases vraiment dans le domaine du journalisme pour des informations de type score de match, résultat d'élection, etc., où c'est genre des informations très répétitives et avec des formulations très systématiques. On pourrait l'avoir peut-être à petite dose pour des use cases comme donner la météo, etc., mais je ne sais pas si ça a une grande valeur d'automatiser ça, même si on va y passer forcément. Mais globalement, on ne peut pas encore le faire sur des technologies de masse. Je ne parle pas de ce qui se passe dans les labos. Hein. Là, c'est forcément assez différent. Dans les labos, pour m'intéresser vraiment au sujet et croiser des personnes qui travaillent en recherche sur ces sujets, on est déjà sur l'assistant virtuel incarné, qui est pas seulement une voix, mais qui a aussi un comportement, des gestuels. On est aussi sur de l'apprentissage non supervisé au niveau du langage naturel. Donc, on est dans des choses qui sont beaucoup plus haut level, mais la technologie de masse, elle est encore un peu à la masse.
quand on s'adresse à une technologie qui est assez poussée, on parle quand même de machine learning derrière, certaines briques utilisent du deep learning et on peut aller un peu plus loin, mais l'idée c'est qu'on peut vite tomber dans le travers d'être romantique sur la techno et on se rend compte, ça fait trois ans que je fais ce métier. Et ça fait un peu plus que je suis assez sur le fait. Et il y a vraiment ce truc que le facteur de succès numéro un, ça va vraiment être le design, comment va être pensé en amont le chatbot, et non pas comment, quelle technologie on va utiliser, l'état de l'art, ce genre de choses. On se rend compte qu'au final, là, une grande partie voilà, du succès d'un projet de chatbot est dans les mains du designer. Pour faire un chatbot, il faut déjà comprendre les usages et surtout le langage de l'utilisateur.
Nous avons un vrai challenge technologique encore devant nous. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par dire que 2016, malgré le fait que c'était l'année de l'intelligence artificielle et l'année du chatbot, je pense qu'on a encore beaucoup de travail devant nous. On n'y est pas. On n'a pas encore atteint le niveau, au niveau de l'intelligence artificielle, qui nous permet de mettre un bot en face et de traiter n'importe quel problème dans toute sa complexité et dans son contexte.
Alors, je suis d'accord avec cette... je trouve cette remarque juste et intéressante pour deux raisons. Déjà, ça, c'est une remarque plus générale sur l'IA, c'est-à-dire que très vite, on se rend compte que on commence à savoir à faire des IA très spécialisées. Alors, une IA qui sait très bien reconnaître certaines images, qui sait très bien reconnaître des visages, qui sait bien reconnaître des mots dans un signal sonore, des choses comme ça. Mais dès qu'il s'agit de faire des IA, on va dire, multi-compétences ou généralistes, on n'y est vraiment pas. Ça, c'est une chose. Ensuite, s'il s'agit de faire une IA capable, déjà simplement de dialoguer de façon un peu naturelle sur tout et n'importe quoi, ça veut dire qu'on serait capable de créer une IA qui a un comportement non rationnel. Et c'est assez compliqué de rationaliser le non rationnel. Donc, à mon avis, on peut aller vers une IA à la Frankenstein, c'est-à-dire on bricole un machin, puis on voit ce qui se passe. C'est presque ce qu'on fait, hein, parce que en vrai, on sait pas expliquer en fait ce qui fait qu'un réseau de neurones, quand il s'est organisé comme ça, va permettre de donner la bonne réponse. Mais on est forcément un peu des apprentis sorciers. Et moi, quand j'enseigne, parce que j'enseigne un petit peu, j'essaie vraiment de faire comprendre à mes étudiants où est l'IA dans un assistant vocal. Et on se rend compte, quand on fait un petit peu l'anatomie de ce système-là, que elle existe, elle est bien là. C'est une infrastructure déjà très lourde parce qu'elle sollicite beaucoup de données, elle sollicite beaucoup de circulation des données, donc du cloud, etc., des tuyaux, mais qu'elle est principalement au niveau de la reconnaissance automatique du langage naturel et pas trop ailleurs, en fait.
Les grandes promesses sur les chatbots viennent aussi avec beaucoup d'attentes. Et je peux comprendre les personnes qui se disent « Ah, je comprends pas pourquoi les chatbots ne répondent pas à ma question super compliquée. » Oui, en effet, il faut prendre le chatbot pour ce qu'il sait faire aujourd'hui. Il est compliqué de traiter des demandes très complexes. Donc ça, je suis absolument d'accord avec ça. Nous, on travaille tous les jours pour justement faire en sorte de trouver les bonnes solutions pour adresser ce problème-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est un peu un problème avec d'ailleurs toutes les technologies et même, je dirais, avec la machine en général. C'est que on la confronte toujours avec l'humain. Quand on parle du test de Turing, je vois bien ces personnes qui du coup vont se dire je vais challenger la machine. Si une personne dit le bot n'a pas compris ce que je voulais dire, c'est qu'elle est vraiment dans cette idée de la défier au final. Et on le fait tous, c'est même humain. Mais du coup on induit un peu un biais et implicitement on part du principe que l'humain est à si le bot comprend que 50% des requêtes. On implicitement se dit que l'humain va en comprendre 100, en fait. On est toujours dans cette confrontation entre l'humain et le bot ou la machine, mais toujours en pensant que le benchmark, la base, c'est l'humain qui sait très bien faire. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Il y a des demandes qui sont complexes et qu'on a tous fait à son service client où la personne au bout du fil n'a pas compris. Donc, il y a toujours ce truc de oui, en effet, on ne pourra pas traiter toutes les demandes avec les chatbots, et c'est pas ce qu'on essaie de faire. Et non, l'humain n'est pas parfait et ne comprend pas tout le temps. Nous, ce qu'on se dit, c'est que l'intelligence artificielle est plutôt là pour assister l'humain. Et c'est un peu un prisme qui est un peu différent, parce que là, on va plutôt se dire, ok, si c'est comme ça, chaque question qu'on pourra automatiser, c'est une petite victoire. Alors, j'ai pas envie de me congratuler d'avoir automatisé une question ou un log, mais il y a cette idée que, avec toute la hype, tout le buzz qu'il y a autour de l'IA, ça fait vraiment gonfler les attentes des personnes. On parle d'intelligence artificielle, donc on parle d'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence ? Un mot qui est très, très grand. Nous, on est plutôt là pour se dire que on va essayer d'automatiser un maximum. Et ça passe en effet par le fait de restreindre le périmètre de connaissances pour privilégier le temps de l'humain qui lui-même va répondre à ces questions-là sur des questions un peu plus complexes. Et après, bien sûr, il y a des chercheurs qui sont super bien calés sur le sujet, qui sont là pour justement tous les jours faire un peu avancer du coup la technologie de compréhension du langage naturel, qui est quand même un des sujets en IA qui est le plus complexe à faire. Reconnaître un chien ou un chat sur une image, on sait plus ou moins bien le faire. De plus en plus, on sait bien reconnaître du coup les mots dans du son, par exemple. La compréhension du langage naturel, c'est un peu plus complexe. Il y a l'aspect culturel du langage qui est pris en compte, et un tas d'autres paramètres qui fait que, au final, même nous, entre humains, on a du mal à se comprendre. Bah, le faire apprendre à une machine, ça, c'est aussi une tâche pas facile. Donc, on est plutôt à se dire que, voilà, petit à petit, on y arrive. Et avec, bien sûr, le design conventionnel, de faire en sorte d'itérer assez rapidement sur le fait de se dire, OK, la techno, elle est à un stade. Comment on va rattraper un peu les cas d'usage qu'on ne pourra pas traiter avec de l'UX, avec du bon sens, avec des principes de design qui vont être le plus cohérent possible, garantir le côté intuitif de l'interface le plus possible. Donc du coup, on va essayer un peu de combler ce que la technique, la technologie ne pourra pas faire par de l'UX, et bien sûr valoriser le travail de l'humain qui sera pour l'instant, encore une fois, toujours là pour traiter les demandes complexes.
Chapitre 2. Concevoir des interfaces homme-voix-machine. Le travail du designer. Peux-tu me présenter des projets sur lesquels tu as travaillé ?
Alors, sur les chatbots, j'ai eu l'occasion... un des projets qui m'a le plus intéressé, j'ai eu l'occasion de travailler sur un chatbot pour un hôpital psychiatrique. Et du coup, c'était très intéressant parce que le premier échange qu'on a eu avec le client, c'était... comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que c'est un robot, que s'il y a une situation d'urgence, et c'était son problème en fait, il y avait beaucoup de personnes qui appelaient quand il n'y avait personne au standard pour dire qu'elles allaient se suicider. Voilà, donc le bot était censé venir aussi là pour pouvoir au moins rediriger vers le SAMU, voilà, faire un peu une sorte de salle d'attente qui repousse éventuellement l'acte, quoi. Et donc, fallait surtout pas qu'on pense qu'il y a quelqu'un, vraiment. Et en même temps, il fallait quand même un peu rassurer et au moins être entendu. C'est-à-dire que la personne se dit « Ah bah, je vais appeler le SAMU au lieu de me suicider ». Bon, enfin, après, il n'y a pas de magie, hein, ça se jouait en quelques phrases. Mais donc ça a amené à une réflexion assez intéressante sur justement aussi comment se présenter comme une institution, tout en créant quand même un temps d'échange bienveillant avec la personne. Un autre exemple, vraiment dans le domaine des interfaces vocales. J'ai eu l'occasion de travailler avec EDF assez tôt sur des pistes d'applications vocales. Et il n'y avait pas de cas d'usage prédéfini. Et notre réflexion nous a amené progressivement à nous intéresser à la question des éco-gestes. Et en se disant, l'assistant vocal, il est situé dans l'espace domestique. Est-ce que ce serait pas l'occasion de donner des conseils de bonne conduite, entre guillemets, sur la façon de consommer, de moins utiliser l'énergie, ce qui peut paraître paradoxal pour un énergéticien, mais voilà, d'être plus écologique dans ses comportements. Et on s'est dit qu'on allait faire, on est parti sur l'idée de faire un jeu plutôt pour des enfants assez jeunes, enfin pas des ados quoi. Et là, ce qui était intéressant, c'est que tout l'enjeu, c'était comment est-ce que on n'en fait pas un truc chiant moralisateur. quelle peut être la posture en fait de l'assistant vocal? Est-ce que c'est une sorte de maître du jeu? Est-ce que c'est l'interlocuteur direct? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un enfant par mimétisme avec l'utilisateur, l'utilisatrice? Et c'est une jolie histoire parce qu'au départ, c'était censé être juste un POC, donc une preuve de concept. Et finalement, on l'a lancé pour de vrai. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'assez évident dans le fait d'aller vers des expériences ludiques quand une technologie n'est pas totalement mature, parce que ça permet de créer un cadre qui à la fois est attractif et en même temps assume ses limites, quoi. Nous, le jeu qu'on a fait avec EDF, c'est un jeu de questions-réponses où on écoute des... En l'occurrence, il y a plusieurs jeux, mais il y en a un, par exemple, qui s'appelle La Machine Mystère. On entend des sons d'objets électroménagers. Donc, on entend un peu la voix des machines du XXe siècle, quoi. Grille-pain, photocopieuse, tout ça. Et on doit deviner quel est cet objet. Et donc, si on se trompe, il y a un QCM, enfin, il y a des indices. Et donc, là, on est vraiment dans un. Le gameplay, il est connu, c'est une architecture assez classique. Et l'assistant vocal joue vraiment le rôle de modérateur comme un adulte assez bienveillant qui est là, genre, essaye encore, des choses comme ça. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ça permettait de tester une interaction qui était qui profitait de la dimension purement sonore de l'interface, qui assumait les limites, c'est de la question-réponse, en même temps qu'elle allait un peu chercher des choses assez chouettes en rajoutant des « waouh », des petites interjections, en tout cas, voilà, qui ramenaient un peu de saveur à l'expérience. Après, moi, ce que je vois passer dans l'univers du ludique, c'est souvent des simulations, enfin, des pastiches plutôt de jeux de questions-réponses, de devinettes, mais ça s'y prête, c'est ce qu'on fait à l'oral quand on s'ennuie dans une voiture, quoi. Enfin, je trouve ça évident.
Le premier grand succès qu'on a eu avec TCF, c'était le projet Air France. On aime bien en parler parce que justement il montre bien ce qu'on sait faire de bien, parce que ça a été un succès autant pour eux que pour nous, et ça nous a surtout permis assez vite de mettre les mains dans le cœur du sujet, qui est de créer un chatbot non linéaire. Donc ça, c'est une grande spécificité, c'est qu'à ce moment-là, c'était il y a un peu plus de 2 ans, beaucoup de personnes sur le marché étaient assez frileux, et on peut comprendre, les technologies étaient encore assez jeunes, et nous, on a fait le choix de ne pas faire un chatbot linéaire qui utilise des boutons avec des arbres professionnels qui sont assez rigides, et qui au final apportent assez peu de valeur ajoutée à l'utilisateur. Dans le sens où on est sur une version assez dégradée d'une application, au final, si on n'utilise que des boutons. Nous, on a fait le choix de privilégier des interfaces donc, non linéaires, qui utilisent donc, du coup, une brique de reconnaissance du langage naturel. Et du coup, comment ça s'est passé ? On est déjà parti de pas mal de données utilisateurs. On a pris des verbatims clients. On a vraiment regardé comment déjà les utilisateurs dialoguaient avec la marque Air France. Ça nous permet de voir 2 choses. Qui sont très importantes pour nous. La première, c'est les thèmes. Quels sont les cas d'usage? Quelles sont les questions récurrentes que les utilisateurs posaient à la marque? Et 2, donc ça c'est plutôt pour le côté un peu quanti, et surtout pour le côté quali, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle s'exprimait. Les mots, le langage, tout vraiment l'analyse des mots qu'employaient les utilisateurs d'Air France. Ça nous a permis déjà, dès le lancement du chatbot, d'être pas trop mauvais. Parce qu'on avait déjà anticipé les questions et surtout le langage qu'allaient utiliser les utilisateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a très rapidement prototypé un premier bot qu'on a présenté à Vivatech. On n'avait pas le choix, vu que le CEO de Air France l'a présenté en mode « c'est bon, on a un chatbot, les gars, on y va ». Donc on était très surpris, mais au moins on était très content de l'engagement qu'avait le client pour ce projet-là. Et par la suite, on a fait aussi des Gaia tests. On est allé à Charles de Gaulle. Et on allait montrer le chatbot et mettre dans les mains du coup le chatbot à des potentiels utilisateurs pour prendre un maximum de feedback. Ça nous a vachement aidé, vraiment de tester très rapidement avec un petit prototype notre chatbot, et on a pu prendre plein d'insights, plein d'informations sur vers comment on pouvait diriger le chatbot, et des fois sur des choses assez intéressantes comme la personnalité et sur des petits hacks qu'on pouvait utiliser pour gagner du temps, vraiment comprendre vraiment le persona de notre utilisateur. Et puis après, ça a été vraiment l'idée de, une fois qu'on a lancé le chatbot, c'était vraiment l'idée de comment on va analyser les comportements et toujours aller un peu plus loin. Et ça, encore une fois, ça a été un peu une bonne pratique de notre côté, de commencer très simple et de voir les fonctionnalités qui étaient les plus intéressantes pour vraiment les creuser. Et c'est là où on a créé, du coup, la connexion, du coup, au compte client de l'utilisateur. Et là, le chatbot n'était plus qu'en réponse aux questions, mais il pouvait être beaucoup plus proactif, proposer d'avoir des, par exemple, des sièges plus grands ou des options en plus pour son voyage, pouvoir faire du push aussi pour prévenir de retard ou d'informations voyageurs. Donc, pour nous, c'était un bon projet parce que on a vraiment pu aller vachement loin dans les outils qu'on a utilisés et créés. Parce qu'à ce moment-là, les outils étaient encore assez jeunes. Donc, quand on parlait de bot persona, la carte d'identité de la personnalité du chatbot, c'était encore assez jeune. Donc, on a dû assez travailler là-dessus. Les matrices d'intention et d'identité pour classifier du coup, la connaissance du chatbot. Et ça a soulevé plein de questions. C'est un bot qui est multilingue. Donc, comment on gère aussi le fait que le bot va peut-être se présenter en français, mais l'utilisateur va parler en anglais ? À quel moment on switch ? Ce genre de choses. Donc, c'était une belle mission pour le côté portfolio. On a pu vraiment tout faire au niveau de l'expérience utilisateur et on a pu soulever aussi les limites des technologies qu'on utilisait et c'était assez intéressant d'aller aussi loin dans ce genre de cas d'usage. Donc c'est celui qui me vient en tête parce qu'il est assez complet, on a fait plein de choses mais on s'est pas arrêté là bien sûr et on a vu qu'au final on a traité pas mal de cas d'usage, mais celui qui a le plus de valeur, c'est celui de répondre à des questions d'utilisateurs, surtout autour du service client.
Depuis plusieurs mois, j'ai une collaboration avec la RTS, qui est la radio-télévision suisse, et donc qui cherche à développer son offre vocale en tant que radio. Donc super intéressant, ça relie un peu mes terrains de jeu entre la radio et le dialogue humain-machine. Et puis surtout, c'est un vrai enjeu pour la radio, en fait, puisque qu'est-ce que ça veut dire accéder à du contenu radio à la voix ? Est-ce que ça re-questionne les formats ? Et la concurrence est rude, puisque des contenus qui sont aujourd'hui écrits peuvent se retrouver vocalisés et donc avoir leur place sur un canal, sur ce type d'espace que sont les assistants vocaux. Donc il faut exister quoi. On a travaillé sur plusieurs applications. L'une d'entre elles, c'est une application justement qui traite des infos, où justement il y a pas mal de concurrence. Après, ça se joue aussi sur des formes de négociations, de partenariats. Radio France a une place privilégiée dans les requêtes quand on demande donne-moi le dernier flash info ou c'est quoi les infos en France, parce que c'est localisé. Quand j'ai commencé à travailler avec la RTS, j'avais déjà un peu d'expérience et les premières recommandations que je leur ai faites, première prise de position que j'aurais proposée, c'était déjà de faire une application très peu bavarde. Il s'agit pas d'être là pour montrer que c'est une interface vocale en fait, il s'agit de donner l'information que la personne cherche à avoir. Donc pas besoin de le prendre trop de temps d'attention. Deuxième chose, c'est la radio. C'est déjà un espace où il y a une grande histoire de l'expérience d'écoute. Et donc, du coup, il y a sûrement plein de choses intéressantes à apprendre et à réinjecter dans une expérience vocale. Et donc, j'ai construit, on va dire, la personnalité de l'application en reprenant des petits tics de langage qui sont propres aux speakers à la radio du genre rendez-vous à telle heure pour le prochain flash info ou des choses comme ça ou tout de suite par exemple c'est des choses toutes simples c'est de toute façon c'est du micro c'est de la micro conception et c'est très intéressant je trouve au lieu de dire et maintenant on écoute ceci, ou voici ce que vous avez demandé, ou juste balancer l'audio. J'ai proposé plutôt de dire tout de suite le dernier flash info, ou des choses comme ça. Donc ce qu'on entend déjà à la radio. Donc c'est une hybridation en fait entre ce que peut faire un speaker et ce que fait une application vocale qui est quand même plus limitée et qui a un grain de voix un peu plus pauvre aussi. Après l'autre aspect intéressant de ce use case, donc juste pour expliquer, l'application, elle propose d'accéder à différents contenus, donc les flash infos, les derniers flash infos de la rédaction, la météo, les contenus sport, qui ne sont pas, donc tout ça n'est pas produit pour l'instant pour l'application, donc il faut s'appuyer sur la grille des programmes et sur l'activité des rédactions. Et puis aussi, ça c'est intéressant, d'accéder aux archives. Ils se sont dit, je trouve ça assez ambitieux, c'est peut-être l'occasion de permettre d'accéder aux archives de la radio d'une façon plus interactive, renouvelée. Et donc là, on est un peu dans l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas dans « j'ai une question, on me donne une réponse et ce sera la réponse et c'est tout ». Là, c'est plutôt une invitation à l'exploration. Et donc, on a un petit peu joué avec ça en proposant une machine à remonter le temps, etc. Avec une archive du jour, donc où il y a un petit peu de modération pour tirer au sort une archive chaque jour. Et il y a la possibilité de faire des recherches par mots-clés. Donc, c'est quand même pas rien de proposer ça. C'est une application qui est presque finie. T'es assez ambitieuse en termes de développement aussi. Presque, ouais, assez lourde en termes de développement. Mais j'y crois pas mal.
Et dans tes projets, as-tu rencontré des échecs ?
Alors, on peut appeler ça des échecs ou plutôt des ratés. Je préfère rater, je trouve ça plus léger. Un exemple de raté, quand je travaillais avec EDF, les choses étaient très ouvertes pour proposer des scénarios d'usage un peu innovants, des pistes d'application un peu inexistantes, quoi. Et on n'avait pas spécialement dans les pattes l'équipe côté tone of voice ou marketing ou identité de l'entreprise. Donc, je pouvais un peu faire ce que je voulais. Et j'avais proposé des dialogues où il y avait un peu d'humour, même parfois un petit peu de second degré dans l'interaction avec l'usager. Et on les a fait écouter au moment à l'occasion d'un focus group qu'on avait organisé. Et c'était très intéressant parce que beaucoup de personnes considéraient EDF comme une institution et étaient vraiment très surprises et dérangées par ce ton-là que j'avais voulu sympa, avenant, entraînant, quoi. Donc là, je dirais un fail au bon moment, hein, mais un vrai fail. Et ça m'avait aussi amené à un apprentissage très intéressant. Quelqu'un avait dit, mais moi, ça me gêne pas qu'il y ait de l'humour, mais par contre, c'est moi qui commence. Et donc, de dire, voilà, s'il y a de l'humour, c'est d'abord l'usager qui fait une blague. Et dans ce cas-là, c'est intéressant si l'assistant vocal est capable de saisir ça au vol et de rebondir. Mais par contre, que ce soit au cours d'une expérience, l'assistant qui me pousse une blague, alors qu'en fait, ça va peut-être pas du tout me faire rire, ça va peut-être complètement être à côté de la plaque, voire ça peut être même vexant. Ou décaler, genre faire une blague sur le fait de ne pas avoir payé sa facture d'électricité, ça peut être vraiment très gênant. Voilà, donc des choses comme ça. Donc ça, c'était un apprentissage très constructif. Et l'autre raté, c'est pas vraiment un raté, mais je pense que les premières propositions que j'ai pu faire il y a trois ans facile, étaient effectivement assez bavardes. Avec vraiment la volonté de que l'interface existe parce que c'était trop drôle quoi de faire parler à une machine et je me rendais compte en fait que c'était fatigant donc je suis allée vraiment vers un dépouillement qui est aussi un parti pris plus fort que le simple fait de enfin il y a deux dimensions je pense que c'est important de pas saturer l'attention des personnes et c'est une attente et c'est même un choix personnel en tant que conceptrice, en tant que designer. Mais il y a une autre raison au fait de pas faire des interfaces vocales trop bavardes, c'est de pas les humaniser à outrance. Au début, on veut vraiment jouer avec ces possibilités-là d'avoir des petites figures de style, des petits effets parlés, etc. Mais en fait, ça en fait une interface très très dessinée, très lourde, et dont on se lasse très vite. Et puis, finalement, ça sonne un peu faux, quoi. Une fois qu'on est sorti de l'effet nouveauté, on n'y croit pas et c'est fatigant. Et surtout, ça nous fait croire que la vocation des interfaces vocales, c'est d'être humanoïde. Ce en quoi je doute. Plus j'avance, plus j'essaye de faire des interfaces qui sont agréables, fonctionnelles, qui sont même sensibles éventuellement. Mais je cherche pas à ce qu'on croit en une présence humaine, en fait. Je crains cette confusion. Cette confusion, je la trouve néfaste et je la trouve pas forcément très efficace, très efficiente. Voilà.
on travaillait sur un sujet de chatbot pour une marque retail. Et c'était un chatbot qui était à destination des employés. Et l'idée, en fait, c'était de se dire, OK, on a des employés qui ont des demandes assez complexes. Et ils sont, à ce moment-là, dans le contexte de l'utilisateur, ils sont en face de leur client final. Et leur habitude, enfin dans la journée habituelle, c'est le truc, c'était je prends mon téléphone et j'appelle un call center pour nous répondre. Et donc du coup, on s'est dit bon bah logique, on va aller appeler ce call center, on va leur demander quelles sont les questions les plus récurrentes. On est vraiment dans cette idée de se dire ok bon bah on va commencer petit, mais on va surtout commencer par de la data réelle. Et c'est vraiment d'ailleurs dans tous les produits qui utilisent de l'IA. La première chose à faire, c'est de trouver une source de data qui se rapproche le plus des cas réels. Et en fait, très gentiment, le call center nous a renvoyé une liste en fait de questions à traiter. Très bien, on entraîne le chatbot avec ça, donc ça nous donne un premier périmètre. On lance le sujet et là, ça marche pas. Genre, toutes les demandes sont hors scope. Les performances, donc du coup, c'est pas bonne. Il faut remettre dans le contexte que l'utilisateur, donc l'employé, est face à un client, donc il n'a pas le temps. En plus de ça, on le fait adopter un nouvel outil qui n'est pas satisfaisant, donc on essaie de lui faire perdre une habitude pour une alternative qui semble meilleure, mais qui n'est pas concluante. Donc du coup, l'utilisateur un peu frustré. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de problèmes sur ce chatbot-là. Et en fait, en creusant un peu, on a fait des interviews d'utilisateurs pour essayer d'aller un peu plus loin. Et en fait, on s'est rendu compte que le biais venait du tout début du projet, où en fait, on avait complètement sous-estimé en fait le pouvoir et le biais que pouvaient induire les personnes qui nous donnaient les datas. Et en fait, le truc qu'on s'est rendu compte, c'était que les personnes qui nous donnaient ces infos-là, de quelles sont les questions les plus récurrentes, ils ont complètement biaisé en fait leurs résultats pour leur propre intérêt. Et c'est un truc qui est très humain. En fait, l'idée, c'est qu'ils se sont dit « Ok, il y a quelqu'un qui veut automatiser notre métier. Et nous, il y a clairement des questions qui nous emmerdent. Ça nous prend du temps, c'est chiant. Ce n'est pas les questions les plus posées. C'était des cas qui étaient vraiment des cas de niche. Mais du coup, pour eux, ils se sont dit « Ok, c'est le moment de briller. On va faire les trucs, on va leur donner les trucs qu'on n'aime pas faire. » Et du coup, on a entraîné un chatbot avec un périmètre qui était complètement à côté de la plaque, juste parce qu'en effet, il y a un biais qui était induit dès le début d'une personne qui se dit « Ok, une personne veut automatiser mon métier, je vais lui donner ce qui m'arrange. » Nous, impossible de challenger, je suis clairement pas expert sur des process pour vendre du programme de fidélité ou ce genre de choses. Donc du coup, on l'a pas remis en question. Et ce qu'on aurait dû faire, et le faire challenger plusieurs fois. Et en fait, on était en échec juste parce qu'il y avait un biais qui était induit dès le début, dès la phase de scoping, définition du périmètre, et du coup, entraînement du chatbot. Et on peut pas se rendre compte que... Enfin, c'était difficile pour nous de se rendre compte de ça, et maintenant, on a vraiment un warning sur le fait que souvent, un échec d'un projet chatbot, c'est sous-estimer en fait ce gap entre ce que l'on pense que l'utilisateur va nous demander et ce que l'utilisateur nous demande vraiment. Et ça s'explique par le manque de connaissances, clairement, des entreprises, des demandes en fait, les plus récurrentes. Pour qu'une entreprise ait cette connaissance-là, il faut vraiment qu'elle soit structurée, qu'elle ait des outils et qu'elle soit dimensionnée avec des personnes pour faire cette analyse, comprendre les usages, les habitudes, même le langage de leurs utilisateurs. Et se poser la question de qu'est-ce que je fais de cette data-là ? Est-ce que je la labellise ? Est-ce que je la trie ? Est-ce que je la valorise, en fait ? Et en fait, très peu de nos clients se posent ces questions-là en amont. Du coup, quand on prend un projet, bah, on est un peu dans le flou et on doit tout construire de zéro. Et du coup, ça implique ce genre d'échec, en fait, projet, qui est qu'en fait, on n'est pas du tout en fait, dans les usages et on est complètement à côté de la plaque.
Donc moi, je vais très vite vers du maquettage ou prototypage rapide, on peut appeler ça de deux façons. Et en fait... Je travaille tout le temps comme ça. Et pour pouvoir discuter avec le client et moi-même pour me rendre compte de l'effet d'écoute que je produis. Parce que c'est vraiment ça le but. Le but, c'est d'être écouté et c'est que la personne mémorise ce que je lui dis. Sinon, on s'en sort pas. Sinon, l'interface n'est pas efficiente. Donc, je dirais le premier type, c'est maqueter le plus tôt possible. Le deuxième, ça va être vraiment construire l'architecture en fait de l'application. Donc, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça le comportement de l'application. En fonction de quelle demande, qu'est-ce que je réponds. Donc, c'est ce que je disais au début, le dialogue management. Surtout que cette architecture-là, elle demande de dialoguer avec le développeur pour qu'on se comprenne. C'est-à-dire que l'arbre conversationnel, ça reste une représentation qu'on fait pour expliquer le fait que si c'est pas A, ça va être B, et si c'est B, alors ce sera C ou D, etc. Mais ça correspond pas exactement à ce qui se passe dans le code, et donc il faut trouver un terrain de compréhension. Et c'est pas si évident en fait, ça dépend de la complexité de l'interface, bien sûr. Mais... Donc je dirais itérer assez vite sur une vision d'ensemble de cette architecture du dialogue. Et après, ça va être la cohérence, c'est-à-dire identifier vraiment les patterns dans la façon que l'application va avoir de s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle dira, qu'est-ce qu'elle ne dira pas. Alors, bien sûr, on a le tutoiement, le vouvoiement, des choses comme ça. Mais moi, vraiment, la chose la plus importante à retenir, selon moi, et qui est vraiment spécifique, c'est de faire des maquettes sonores le plus tôt possible. Si possible, faire des ateliers type focus group. Moi, j'essaye toujours de défendre au maximum ça dans les projets et itérer à travers l'écoute. Il faut écouter ce qu'on fait, en fait, mais soi-même aussi, hein, parce que parfois, on se dit « Ah, ça sonne bien quand on l'entend dans sa tête », puis on l'écoute, on est là « Ah, mais en fait, il y a un contresens ». Ou « Ah, mais en fait, j'ai pas retenu » ou enfin, voilà, il faut écouter. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux interfaces vocales, j'avais vraiment l'impression que je faisais de l'UX, en fait, ou de l'UI, enfin, un peu les deux, comme je pourrais faire n'importe quelle application. Et plus j'ai travaillé dessus, plus j'ai commencé à percevoir des spécificités. Alors, bien sûr, si on écrit les énoncés, il faut maîtriser l'écriture, il faut être attentif à aussi la façon dont on parle. D'ailleurs, pour toute la partie écriture des énoncés utilisateurs. Donc, il faut monter en compréhension du langage. Mais il y a autre chose qui m'a semblé assez particulier. Et en fait, j'ai vraiment pris le temps de m'y intéresser. Ça a donné lieu à un article qui sort là, aujourd'hui d'ailleurs, dans Sciences du Design, si vous voulez aller voir. Ce que j'ai remarqué, c'est que habituellement, quand un concepteur, une conceptrice travaille sur un objet, une application, basiquement, il va se mettre à la place de l'utilisateur pour continuellement, on va dire, essayer de valider ou invalider la forme qu'il propose, la fonctionnalité, etc. Donc, ses choix de conception. Et du fait de sa réalité vocale et sa réalité même langagière, genre l'application que je fais parle le langage que je parle moi-même, on finit par se mettre aussi à la place de l'interface. Et ça, c'est très particulier parce qu'en fait, on se retrouve dans un jeu de rôle où je passe mon temps en concevant à jouer le rôle du programme, puis jouer le rôle de l'utilisateur, puis jouer le rôle du programme, etc. Et c'est peut-être pour ça que c'est particulièrement important de maqueter et d'écouter ce qu'on a fait, parce qu'il faut casser cette espèce de huis clos qui est assez bizarre et qui, pour moi, annonce en fait des modes de conception qui vont peut-être se développer d'autant plus, encore plus, où en fait on est en train d'incarner l'objet qu'on conçoit, parce que l'objet devient un peu humain en fait. Et ça, c'est pour moi réellement nouveau.
Du coup, un projet de chatbot, ça commence comme beaucoup de projets. Digital, mais pas que d'ailleurs, je pense, c'est qu'on va passer pas mal de temps autour du scoping, comprendre qui intervient sur le projet, donc les stakeholders, comprendre notre utilisateur, comprendre les contraintes techniques, parce que ça reste quand même une interface qui s'appuie sur toujours de la technique, donc si on doit s'implémenter sur un site internet ou sur d'autres médiums, on a besoin du coup de ces contraintes-là. Et ensuite, on va essayer de faire un petit sprint de design qu'on a adapté aux besoins du coup des chatbots ou des applications vocales. Et du coup là, on va vraiment passer en revue quel est notre utilisateur, donc construire le persona, définir dans quel contexte l'utilisateur va utiliser le chatbot, quelles sont les différentes tâches, son contexte, savoir aussi dans quelle journée on vient s'implémenter. Ensuite, on va se poser la question des fonctionnalités principales du chatbot, donc le périmètre de de connaissances. Et là, on a des petites matrices pour arbitrer, pour justement faire en sorte de commencer très petit et itérer par la suite, aller toujours vers l'impact, vers la valeur. On va se poser la question aussi du persona du bot, de l'assistant en lui-même, et on va se poser sur au final des c'est un peu une phase de prototypage. On va utiliser en fait des petits dialogues. On va vraiment c'est un peu comme des jeux de rôle au final. On va essayer de se mettre dans la peau d'utilisateur et se mettre dans la peau de l'assistant et penser quels pourraient être les dialogues entre les deux pour faire en sorte déjà un de voir si le persona du bot colle bien avec le tone of voice et le ton de l'entreprise, si ça colle bien avec le persona utilisateur, et si ça remplit bien les cas d'usage qu'on a préalablement définis. Donc on a plein de petites activités, le magicien d'Oz pour vraiment avoir ce petit jeu de rôle, et après on peut même avoir du prototypage, on peut créer un petit assistant très rapidement avec notamment des outils comme Bot Society, pour vraiment avoir sur son téléphone comme si on était en fait un assistant pour lui poser des questions, utiliser des formats riches et voir un peu comment on pourrait construire la conversation. Donc ça c'est le workshop, c'est le petit sprint. Ensuite on va faire ce travail on va travailler sur des livrables en fait. C'est là où on va définir le bot persona, on va asseoir tout le tone of voice du chatbot, créer tous les dialogues autour des fonctionnalités primaire du chatbot. Donc ça c'est plutôt de l'UX writing, on va utiliser des principes du UX conventionnel pour faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible et adapté au médium, et on va revenir pour faire tester notre prototype, parce que tout ça est cristallisé dans un prototype, et là du coup on a une première boucle d'itération. Et oui, en effet, en marge de ça on a toute la logique de data qu'on pose en fait dès le début, qui c'est vraiment en parallèle de l'UX, des fonctionnalités du chatbot, où on va se poser la question de comment capturer la data de l'utilisateur, comment savoir qu'elle est de qualité, comment on peut la structurer avec des matrices d'intention et d'identité notamment, commencer après à entraîner un modèle, voir quels sont les résultats, créer un set de validation pour voir si une fois qu'on va lancer le chatbot, est-ce que on va rencontrer les attentes et le niveau d'attente de l'utilisateur. Où est-ce qu'on va continuer à l'entraîner, aller chercher de la data, ce genre de choses, et comment cette base-là, ce modèle-là, on va le maintenir dans le long terme. Et donc du coup, ça c'est jusqu'au moment où on va lancer le chatbot, et après en effet il y a toute une phase de comme un UX designer, on a des KPI qu'on a d'ailleurs définis en amont, et on va les monitorer, on va les vraiment descendre très profond dans les conversations, comprendre quels sont les usages, là où le chatbot était en erreur. Et si on a décidé qu'il était en erreur, parce qu'il y a aussi des escalades vers l'humain qui sont possibles, quand on ne souhaite pas répondre à certaines questions, c'est l'humain qui prend la main. Et donc du coup, on va enrichir le chatbot, lui apprendre peut-être d'autres questions, agrandir son périmètre, et donc du coup écrire des réponses, ce genre de choses. Peut-être qu'on va travailler plutôt dans la profondeur, où on va ajouter des fonctionnalités là où il n'y avait qu'une réponse simple, et se poser la question de comment on peut faire en sorte d'améliorer tout simplement les fonctionnalités. Donc on a aussi des funnels pour comprendre si peut-être des personnes s'arrêtent à des moments de la fonctionnalité, ce genre de choses. Donc en fait on est assez proche d'un métier du UX, et on fait vraiment en sorte justement de créer les outils sur notre plateforme pour vraiment se rapprocher de ça, de l'usage de je monitore mes dialogues, j'enrichis mon chatbot, je regarde si mes KPI sont bons et je donne les bons leviers pour faire en sorte de les faire évoluer dans le bon sens. Tout le monde a un peu sa façon de faire. On a par exemple des entreprises qui vont être assez verticalisées. On a par exemple des startups qui vont se positionner sur la verticale du voyage. Et donc du coup là, l'idée c'est quoi ? C'est on fait un entraînement sur des questions récurrentes autour du voyage et on fait ce travail une seule fois. On le propose à des clients de ce secteur-là et bien sûr, je pense que ils entraînent au fur et à mesure leur base pour faire profiter à tous leurs clients. Nous, on part de zéro à chaque fois. Déjà pour des raisons de data, clairement. Les politiques data sont assez compliquées. On peut pas se permettre d'utiliser la data d'un client pour un autre client. Et parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de différences entre les différents clients. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux clients dans le même secteur, mais le cas d'usage est différent. Le langage des utilisateurs peut être différent, les questions les plus posées peuvent être différentes, donc du coup on part de zéro. Et donc du coup en effet ça induit une phase d'apprentissage dès le début. sur un premier périmètre où on va identifier quelques intentions utilisateurs et qu'on va entraîner avec du coup bah, des façons de s'exprimer de l'utilisateur. Donc si ton intention c'est quel est le poids maximum de mon bagage, on va trouver une dizaine d'alternatives différentes de comment pourrait s'exprimer dans ces mots l'utilisateur final. Et si on peut utiliser du verbatim client, c'est encore plus intéressant parce qu'on sera encore plus proche du coup de la façon de s'exprimer de nos utilisateurs. Pourquoi, déjà, pourquoi on entraîne de plusieurs variantes ? L'idée, c'est pas tant de lui apprendre des mots, c'est plutôt de lui apprendre des patterns. L'IA, ce qu'elle va voir, en fait, c'est qu'elle va voir la place des mots dans une phrase et elle va voir leur récurrence. Y a généralement pas de dictionnaires en fait, qui sont associés à un modèle de langue en NLP, pour Natural Language Processing. Donc, en fait, elle sait pas qu'une vache est une vache. Par contre, elle sait que vache est peut-être dans une intention, qu'elle est répétée plusieurs fois. Et bien sûr, on a d'autres petites technologies comme le fuzzy matching qui permet d'être assez assez sympa avec avec la confiance. C'est-à-dire que si vache, il manque une lettre ou s'il y a un S à la fin, bah, la machine pourra comprendre qu'on parle bien d'une vache. Donc, si tu veux, on n'est pas dans l'idée de créer des synonymes, même si tu peux le faire. Nous, on utilise des ontologies, on peut aller plus loin. Mais l'idée, c'est plutôt d'enrichir ta base de connaissances avec un certain nombre de mots et surtout donc dans sa récurrence et surtout dans sa place dans une phrase pour comprendre le pattern. Ce qui va être intéressant avec le pattern, c'est que tu peux très vite aller un peu plus loin. Donc ça, c'est les intentions avec ce qu'on appelle des entités. Et là, ça va vraiment être une logique de mots-clés. C'est-à-dire que si tu dis « Est-ce que je peux voyager avec mon chat ?» et que tu entraînes ton intention sur l'intention de la condition, tu vois, c'est est-ce que je peux ? Et bah du coup, l'IA va pouvoir savoir que à la place de chat, on pourrait aussi avoir, je sais pas, trompette. Et du coup, l'idée, c'est que du coup, elle va pouvoir garder le même pattern et juste remplacer les mots par d'autres mots-clés. Et donc du coup, ça casse pas tout le modèle et on peut du coup passer de une intention avec du coup une seule réponse et on peut du coup dupliquer, scaler en fait ce modèle-là parce qu'on peut avoir un nombre infini de mots-clés avec un nombre du coup infini de réponses en ayant les dix mêmes phrases d'entraînement dès le début.
C'est tout pour cette première partie. On se retrouve au prochain épisode où nous poursuivrons cette discussion autour des enjeux éthiques.